On va en jaser avec un scientifique qui va venir confronter ses théories ou encore nous confronter, je ne sais pas. Sébastien Gauthier est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Salut Sébastien.
Alors Sébastien, il va-t-il en avoir une fin du monde en 2012?
Pas supposé, en tout cas. comme je dis, il y a deux jeux là-dedans. Il y en a qui essaient de nous faire peur et de faire des prédictions qui ne sont pas fondées. La science, elle ne fonctionne pas comme ça. La science ne vous dira pas la fin du monde va arriver à telle ou telle ou telle date. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a absolument rien scientifiquement qui nous dit que la fin du monde va arriver en 2012, mais absolument pas. Et en fait, là, j'ai des hésitations à vous dire que la fin du monde n'arrivera pas en 2012, mais ça, c'est l'hésitation scientifique. Vous m'auriez dit n'importe quelle date du calendrier, puis je vous aurais dit, ben, on ne sait pas. Mais sinon, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'on surveille, les volcans, les comètes, les tremblements de terre, l'inversion des pôles, tout ce que vous avez mentionné, l'alignement des planètes, il n'y a rien de ça qui pointe vers ne serait-ce qu'une mini-catastrophe en 2012. Mais l'année 2012 est tout à fait normale, à l'exception d'une chose, c'est qu'en 2012, j'aurai précisément 40 ans, le 21 décembre en plus, donc moi, ça va être la fin de mon monde, là, mais à part moi.
Ça commence, Sébastien, à 40.
Mais je voulais savoir.
Tant mieux, c'est le début d'une ère nouvelle de bord, donc
ouais,
on a raison.
Là, vous autres, les scientifiques, vous vous appuyez sur, bon, évidemment, tout ce qui est phénomène plus naturel, là, oui. C'est, et non pas les légendes, et non pas ce qui est écrit dans les bouquins qui datent de 2000 ans.
Voilà.
Vous regardez donc un petit peu ce qui se passe au niveau, bon, évidemment, de la couche d'ozone et tout ça, là.
Mais sans vouloir vous confronter, comme vous disiez dans votre introduction,
non,
mais
j'aime ça.
Il est vrai qu'il y a un calendrier Maya qui existe. Et ce calendrier Maya-là, en fait, il y a plusieurs calendriers Maya, mais ce qu'on appelle habituellement le calendrier Maya, c'est un calendrier qui est très mathématique, qui compte dans l'avenir et qui n'a pas réellement de fin. Vous savez, nous, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on utilise différents calendriers, comme par exemple le calendrier de la semaine qui contient 7 jours. Eh bien, ce calendrier-là, mettons lundi, mardi, mercredi, bon, quand on arrive à dimanche, qu'est-ce qui se passe? Le calendrier retombe à zéro. Donc, le calendrier de la semaine, de 7 jours, c'est pas un calendrier qui est très pratique pour donner des dates dans le long terme.
Non.
Alors, on a ajouté des mois, et puis il y a les années qui, elles, s'en vont à l'infini, si on veut. Bon, dans le calendrier Maya, un des calendriers Maya qui s'appelle le compte long, lui, il s'arrête jamais. Donc, il va très, très loin dans le futur. Et c'est pas vrai que les Mayas ont prédit quoi que ce soit avec leur calendrier. Et leur calendrier ne s'arrête pas. C'est juste qu'il arrive le 21 décembre 2012 ou autour du 21 décembre 2012, parce qu'on n'est pas tout à fait certain, mais disons le 21 décembre 2012, il arrive un chiffron. Exactement comme le 1er janvier de l'an 2000, disons.
Okay.
Donc, l'an 2000, au niveau de la nature, c'est rien de spécial. Mais si on regarde les chiffres dans le calendrier 2000, on vient de passer un millénaire. Et puis, chez les Mayas, on arrive à ce qu'on appelle le 13e Bakhtun, et le nombre 13 pour eux, vous savez, le fameux vendredi 13, etc. Bon, ben, c'est une des civilisations qui accorde une importance au nombre 13. Mais encore là, c'est pas une année de malheur pour eux. Le nombre 13, c'est un nombre important, là. C'est un nombre religieux. C'est pas quelque chose qui est associé à un malheur. Mais c'est juste qu'il y a un cycle qui est complété, qui dure 5000 quelques années. Mais après, le calendrier continue. Et d'ailleurs, sur les pyramides Mayas, les experts, les anthropologues, les historiens, les mayanistes, qu'on les appelle, vont être capables de lire des dates du calendrier Maya qui vont bien au-delà du 21 décembre 2012. C'est donc dire que les Mayas s'imaginaient, eux, un monde qui allait au-delà de 2012. Et c'est un peu faux de penser qu'ils se servaient de leur calendrier pour faire des prédictions. On vous dit, ils n'ont pas été capables de prédire leur monde, la chute de leur empire.
Ouais.
Ils se servaient plutôt des cycles de leur calendrier pour, justement, mesurer les cycles du Soleil, de la Lune, de Vénus, surtout ils accordaient une très grande importance au cycle de Vénus. Et puis les prédictions qu'ils allaient faire, mais c'était du genre bon ben à tel moment Vénus va se lever à telle place puis à telle heure. Donc c'est des genres de prédictions astronomiques. Et puis là par-dessus ça, mais ils ajoutaient des sens. Ils en profitaient des fois pour faire la fête ou des fois pour sacrifier des gens. Ils étaient comme ça, mais c'était pas des gens qui allaient prédire la fin du monde.
Mais là, excuse-moi Sébastien, j'aimerais ça retourner à la cause départ. D'où ça part tout ça 2012? C'est sûr, on parle des Mayas, mais pourquoi depuis les 3-4 dernières années, on commence vraiment à en parler? Pourquoi on n'en parlait pas il y a peut-être 10, 15, 20 ans?
Parce que ça approche.
De 2012.
Oui, ben c'est difficile à dire. Moi, je vous dirais que on aime ça, là, de croire à la fin du monde.
Ouais.
Moi, bon, je suis relativement jeune, mais déjà, à mon actif, là, j'ai déjà vu quelques fins du monde. On me le disait pour l'an 2000, on me le dit pour 2012, on me le disait dans les années 80, en 99. Ouais. Donc, l'humanité aime ça, se raconter des peurs. Maintenant, pourquoi les Mayas? Moi, je pense que Il y a plusieurs grandes civilisations de l'histoire de l'humanité qui ont eu leur heure de gloire là, dans l'ésotérisme. Vous avez qu'à penser aux pyramides égyptiennes, là, toute mm-hmm. l'histoire d'extraterrestres, etc. Mm-hmm. Les Babyloniens, l'Atlantide en Grèce, etc. Donc, toutes ces grandes civilisations-là ont eu leur heure là, de mysticisme. Je parle au niveau de la population. Là, on dit les extraterrestres, puis les Égyptiens, etc. C'est comme si les Mayas avaient pas été touchés encore. Puis le phénomène 2012 est beaucoup plus populaire en Amérique ailleurs dans le monde.
Okay.
Et puis, c'est comme si les Mayas, bon, on n'avait pas touché à ça au niveau de l'ésotérisme. Et puis là, bon, ben, leur calendrier qui est quelque chose de fantastique parce que, justement, eux, ils étaient capables, en tant qu'êtres humains, de se projeter très, très loin dans le futur. Vous voyez, un cycle de 5125 ans, c'est quand même pas rien. Mmh. Et puis là, ben, le calendrier, effectivement, il arrive un cycle. Alors, on en profite, là, tout le monde décide de... On parle même de l'alignement des planètes, vous voyez, donc... Lorsque les planètes s'alignent, il n'y a absolument rien de dangereux. Et lorsque les planètes du système solaire s'alignent parce qu'elles sont très lointaines une de l'autre, mais en plus, voyez-le ou non, le 21 décembre 2012, les planètes ne seront pas alignées. Donc, c'est de l'invention là, de A à Z qu'on synchronise, qu'on met tout autour du 21 décembre 2012 parce que les Mayas sont à la mode actuellement.
Okay. Ce qui arrive, c'est que je pense que c'est les catastrophistes réussissent à rendre leurs propos convaincants en détournant des faits scientifiques, puis ça donne une espèce de fausse crédibilité où ben, ils font des recherches intéressées dans le but justement de prouver leur point. Fait que, souvent, c'est pas très...
Ils viennent mêler les cartes.
Puis là, ils mettent ça sur YouTube, puis là, ça, j'imagine que ça doit être ça le problème. C'est plutôt la diffusion de ces théories de fous-là. Là.
Exactement. Moi, je rencontre beaucoup d'étudiants, des cégepiens, surtout en philosophie puis en sciences, avec mes conférences que je donne sur 2012. Mais la conférence n'est pas tellement sur 2012, elle est plutôt sur la différence entre la science, ce qu'on appelle la pseudo-science. Et la pseudo-science, eux, ou les pseudo-scientifiques, ils vont servir du discours de la science, ils vont utiliser des explications qui ressemblent à des explications scientifiques, mais sans avoir aucune rigueur. Et donc, exactement comme tu l'as décrit, et on va utiliser des mots de la science, mais ça nous dérangera pas si c'est vrai ou si c'est faux. Puis on va utiliser le vocabulaire de la science pour faire dire des choses. Comme on décide, OK, les planètes qui s'alignent, c'est épeurant, donc on va dire qu'ils s'alignent. Puis on va dire que c'est la NASA qui nous montre ça avec les télescopes, etc. Mais les planètes ne s'alignent pas. Et puis, si on s'intéresse là à l'astronomie, pas besoin d'être un astrophysicien là, pour savoir que les planètes ne s'aligneront pas. On peut les voir avec nos télescopes. On peut mesurer combien de temps elles prennent pour faire le tour du Soleil. Et puis, quiconque s'intéresse à ça, là, il peut facilement se rendre compte que les planètes ne s'aligneront pas. Là. C'est pas une affaire qu'on pourrait se tromper.
Ouais, les Mayas le faisaient à l'œil nu, là.
Oh, oui, c'est ça, exactement. Jupiter, d'ailleurs, moi, je suis en Abitibi depuis quelques jours, déjà. Oui. Et puis, parce que j'habite pas en Abitibi, mais je suis originaire d'Abitibi. Je suis en visite chez ma famille. J'en profite avant la fin du mois pour voir ma famille. Là, il a fait beau, vous l'avez vu, depuis une semaine environ. Il n'y a pas de lune vraiment dans le ciel. On voit très, très bien les étoiles. Puis, il y a une étoile en début de soirée qui est très, très brillante dans le ciel, qui n'est pas une étoile, en fait, qui est la planète Jupiter. Donc, comme vous dites bien, on les voit très bien, l'œil nu, là, les planètes.
OK. Hey, Sébastien, moi j'embarque pas là-dedans, les croyances populaires. Et moi, je veux justement que tu m'amènes là vraiment des théories qui sont plus scientifiques, si on veut. Là. Moi, le seul calendrier sur lequel je me base, c'est le calendrier Summum, mais c'est rempli de belles filles, puis je veux dire, ça arrête au mois de décembre. Vous autres, les scientifiques, là, il y a quand même des choses qu'il faut tenir compte. Là. Moi, ce qui me fait bien plus peur, c'est quand on se fait parler de réchauffement de la planète. Et bon, tous ces trucs-là, ces catastrophes naturelles-là, qui pourraient arriver et qui pourraient faire en sorte que notre monde soit bouleversé. Mais ça, on peut repousser ça tant et aussi longtemps qu'on essaie, en tout cas, d'être plus responsable.
Oui, il y a peut-être trois grandes menaces avec lesquelles fait face l'humanité. Il y en a deux qui sont pas nécessairement imminentes, c'est-à-dire qui se produiront pas nécessairement dans les prochaines décennies. Là-dedans, il y a les impacts des météorites ou des comètes ou des astéroïdes qui pourraient entrer en collision avec la Terre. C'est très, très rare que ce genre de truc-là se passe maintenant. Parce que avec le temps, ça fait quelque chose comme 5 milliards d'années que la Terre existe. Avec le temps, la plupart de ces objets-là sont déjà tombés. Mais c'est un risque réel. La question, c'est pas tant est-ce que oui ou non on va se faire percuter par un astéroïde, mais plutôt quand. Encore une fois, j'insiste, il n'y a rien qui va vers 2012, mais dans un siècle, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, ou peut-être même 1 million d'années, si on commence à regarder sur des périodes très longues comme ça pourrait arriver. Un autre danger de fin du monde, c'est il y a des maladies très, très dangereuses qui tuent les humains. Et puis ces maladies-là venaient qu'à se transmettre comme la grippe, par exemple, comme le sida, par exemple. Si le sida se transmettait comme la grippe, mais qui prenait un an avant qu'on en meure, mais en un an, vous imaginez la quantité de poignées de main qu'on peut serrer, etc. Donc, ce genre de mutation-là, de maladie, ça, c'est à surveiller de près.
Une épidémie, là.
Des épidémies, mais des épidémies de maladies qui finiraient par nous tuer, mais qui prendraient beaucoup de temps.
Okay.
Donc, ça, c'est à surveiller. Puis sinon, l'affaire la plus proche, la plus pressante, c'est la troisième catégorie, sont les changements climatiques. Les changements climatiques, contrairement aux deux autres, c'est quelque chose qui qui viendraient nous chercher à petit feu. Là. Donc, la température peut augmenter tranquillement. Et tous les scientifiques nous disent que actuellement, on passe au travers un réchauffement qui est dangereux, qui peut menacer, pas la vie sur la Terre, ça serait vraiment étonnant, mais qui peut menacer, sans aucun doute, nos conditions de vie actuelles et probablement même le confort, à tout le moins, de l'espèce humaine. Alors ça, c'est pas des théories farfelues. Les scientifiques, lorsque, parfois, chez la population, je le sais parce que je le vois souvent, on nous dit que les scientifiques sont pas certains, qu'il y a des doutes, etc. Mais en réalité, les scientifiques qui travaillent sur le climat, les climatologues, eux, ont très peu de doutes. En fait, ils en ont pas du tout. Les seules places où ils ne s'entendent pas, c'est pour combien la température va monter, puis quand est-ce qu'elle va atteindre un seuil critique. Mais tout le monde s'entend pour dire qu'elle va continuer à monter et qu'elle va atteindre un seuil critique. Okay. Vous le dites, il y a une lumière, d'espoir, on peut faire quelque chose, mais malheureusement, ces histoires-là, on dirait qu'elles sont moins populaires que les fins du monde farfelues.
Ben, ça fait des moins bons films.
Exactement, oui.
La planète Nibiru, planète X, est-ce que ça existe?
La planète Nibiru, non, ça existe pas. Il n'y a pas une planète Nibiru dans le catalogue des astronomes. Très, très rapidement, là, selon des auteurs de science-fiction, il y aurait des humains qui seraient sur la planète Nibiru, qui seraient passés ici il y a 50 000 ans et qui auraient instruit, si vous voulez, aux humains comment faire pour écrire et comment faire pour faire de l'agriculture. Et c'est grâce à eux si on aurait la civilisation aujourd'hui. Mais ça, c'est dans la littérature de science-fiction.
À l'époque des Sumériens.
Mais il y a une dame qui est sortie dans les années 90, qui a reçu un message d'extraterrestre parce qu'elle a été kidnappée par des extraterrestres. Et les extraterrestres lui ont dit que Nibiru allait entrer en collision lors de son prochain passage en 2012. Maintenant, quand on regarde ça de près, des histoires de même, si on décide de croire cette madame-là, là, qui a été kidnappée par des extraterrestres, qui vend des livres et qui fait beaucoup d'argent avec ça, eh bien, elle, ce qu'elle nous dit, c'est que la planète, justement, elle prend 50 000 ans à revenir. Or, si les astronomes, quand on regarde ça, on se dit, bon, mais si la planète, elle prend 50 000 ans à revenir, là, il y avait juste 2 ans avant qu'elle arrive. Et puis, elle serait tellement proche de la Terre, parce qu'on est en 2010, elle arrive en 2012, c'est dans 2 ans. Donc, elle serait tellement proche de la Terre qu'on pourrait la voir la nuit, on pourrait la voir en plein jour, donc tout le monde verrait Nibiru.
Bon.
Alors, il n'y a absolument personne qui croit en l'existence de cette planète-là, des gens qui connaissent le domaine, évidemment. Donc, comme je vous disais, c'est un danger réel qu'un astéroïde ou même une comète entre en collision avec la Terre un jour, mais c'est pas, on monitore le ciel à proximité, si vous voulez, et il n'y a rien qui nous dit qu'en 2012, il va y avoir un accident, absolument pas.
Là. Sébastien, ben intéressant, mais on commence à manquer de temps, alors on va te dire merci. Donc, tu es de passage juste pour des raisons personnelles, je dis juste. Mais
ben non, j'avais des conférences au Cégep de Rouyn-Noranda et à Val-d'Or, qui ont été très populaires d'ailleurs, qui ont été un succès, mais malheureusement, c'est terminé.
Bon, ben, on peut te voir à la TV ce soir dans le bulletin de V, hein, je pense, avec Jean-Marc.
Oui, absolument.
Bon, alors, un moment donné, on poursuivra la conversation autour d'un feu de camp, c'est bien intéressant.
Ben oui, absolument.
Merci Sébastien.
Ben, merci à vous, bonne soirée.
À la prochaine, bye-bye. Alors, Sébastien Gauthier, il est donc scientifique et à la fin du monde en 2012, Ludo, tu peux laisser tes rires où ils sont.
OK.
on va